L'importance du pardon dans nos vies.
Le pardon est-il toujours d'actualité dans notre monde sécularisé? Il ne faut pas écouter longtemps autour de soi pour en reconnaître la brûlante nécessité. Personne, en effet, n'est à l'abri des blessures résultant de frustration, de déception, d'ennui, de chagrin, d'amour, de trahison, etc. Les difficultés de vivre en société, on les retrouve nombreuses partout. Conflits dans les couples, dans les familles, entre amants séparés ou personnes divorcées, entre patrons et employés, entre amis, entre voisins, entre races ou nations. Tous ont besoin de pardonner un jour afin de rétablir la paix et de continuer à vivre ensemble. Perpétuer en soi-même et dans les autres le mal subi. Quand on est atteint dans son intégrité physique, morale ou spirituelle, quelque chose d'important se produit en soi. Une partie de son être est touchée, meurtrie, je dirais même souillée et violée, comme si la méchanceté de l'offenseur avait rejoint le moi intime. On devient enclin à imiter son offenseur, comme si on avait été contaminé par un virus contagieux. En vertu d'un mimétisme mystérieux plus ou moins conscient, on a même tendance à se montrer à son tour méchant, non seulement envers l'offenseur, mais envers soi-même et les autres. L'imitation de son agresseur est un mécanisme de défense bien connu en psychologie. Par un réflexe de survie, la victime s'identifie à son bourreau.
Vivre dans un ressentiment constant.
Bien des gens souffrent de vivre dans un constant ressentiment. Prenons seulement le cas des personnes divorcées. Des études récentes sur les effets à long terme du divorce ont montré qu'un grand nombre d'époux divorcés, et spécialement les femmes, continuent de nourrir beaucoup de ressentiments à l'égard de leur ex-conjoint, même après de nombreuses années de séparation. Dans mon expérience clinique, j'ai souvent l'occasion de constater que certaines réactions émotives démesurées ne sont que la réactivation d'une blessure du passé mal guérie. Or, vivre fâché, même inconsciemment, demande beaucoup d'énergie et entretient un stress constant. On comprendrait mieux ce qui se passe si on garde à l'esprit la différence entre le ressentiment qui engendre le stress et la colère qui ne le fait pas. Alors que la colère est une émotion saine en soi qui disparaît une fois exprimée, le ressentiment et l'hostilité s'installent à demeure comme attitude de défense toujours en éveil contre toute attaque réelle ou imaginaire. Ainsi, celui qui a été dominé et humilié dans son enfance deviendra déterminé à ne plus jamais se laisser maltraiter. Ainsi, il demeurera constamment sur ses gardes. De plus, il sera porté à inventer des histoires de complots ou d'attaques possibles contre lui. Seule la guérison opérée en profondeur par le pardon pourra remédier à cette situation intérieure de tension. Le ressentiment, cette colère déguisée qui suppure d'une blessure mal guérie, a aussi d'autres effets nuisibles. Il est à l'origine de plusieurs maladies psychosomatiques. Le stress créé par le ressentiment s'attaque éventuellement au système immunitaire. Celui-ci, toujours en état d'alerte, ne sait plus découvrir l'ennemi. Il ne reconnaît plus les agents pathogènes. Il va même jusqu'à s'en prendre à des organes sains qu'il était censé protéger. Ainsi s'explique la genèse de plusieurs maladies telles que l'arthrite, l'artériosclérose, la sclérose en plaques, les maladies cardiovasculaires, le diabète, etc. Le Dr. Carl Simonton, dans son livre « Guérir envers et contre tous » 1982, après avoir décrit les recherches scientifiques diverses sur le lien de causalité entre les états émotifs négatifs et l'apparition du cancer, consacre tout un chapitre à démontrer que le pardon demeure le meilleur moyen de surmonter son ressentiment dévastateur. À l'aide d'une technique d'imagerie mentale, il invite les personnes atteintes du cancer à souhaiter du bien à celui ou à celle qui les a blessés. Les utilisateurs d'une telle technique ont ressenti une nette diminution de leur stress. Ils se sont sentis plus à même de combattre leur maladie. Il est pour le moins étonnant qu'une approche si simple du pardon ait pu produire des effets aussi bénéfiques.
Rester accroché au passé.
La personne qui ne veut pas ou qui ne peut pardonner parvient difficilement à vivre le moment présent. Elle s'accroche avec obstination au passé et, par le fait même, se condamne à rater son présent, en plus de bloquer son avenir. Mon expérience clinique avec les personnes endeuillées par la mort ou par la séparation d'un être cher m'a prouvé que le pardon est la pierre de touche permettant de vérifier si le détachement de l'être aimé a atteint son terme. Après avoir aidé la personne à reconnaître sa blessure, à nettoyer son univers émotif et à découvrir le sens de sa blessure, je l'invite à faire une séance de pardon. Pardon à soi-même, afin d'éliminer chez soi toute trace de culpabilisation, et pardon à l'être cher disparu, afin de chasser tout reste de ressentiment occasionné par la séparation. Dans le processus du deuil, le pardon représente une étape majeure et décisive. C'est lui qui dispose l'âme à l'étape suivante, celle de l'héritage où la personne en deuil va récupérer tout ce qu'elle avait aimé chez le défunt.
Se venger.
Les premières séquelles de la vie sans pardon n'offrent rien de bien gratifiant. Qu'en est-il de la vengeance? Présente-t-elle des perspectives plus intéressantes? Elle est sans doute la réponse la plus instinctive, la plus spontanée à l'affront. Pour Jean-Marie Poyer, 1977, écrit que chercher à compenser sa propre souffrance en infligeant une souffrance à l'offenseur, c'est reconnaître à la souffrance une portée magique qu'elle est loin d'avoir. Sans doute la vue de l'offenseur humilié et souffrant procure-t-elle au vengeur une jouissance intérieure. Elle répand un baume temporaire sur sa souffrance personnelle et sur son humiliation. Elle donne à l'offensé le sentiment de ne plus se sentir seul dans le malheur. Mais à quel prix? C'est une courte satisfaction, sans épanouissement véritable et sans créativité relationnelle. Quand s'installe un climat de vengeance, on oublie souvent l'impact destructeur de celle-ci sur l'ensemble d'un milieu. La satisfaction que procure la vengeance est de très courte durée. Elle ne peut pas compenser les dégâts qu'elle aura produits dans le réseau des relations humaines. En outre, la vengeance déclenche des cycles de violence difficiles à briser. L'obsession revancharde ne contribue en rien à guérir la blessure de l'offensé. Bien au contraire, elle l'envenime. Par ailleurs, il ne faut pas croire que la seule décision de ne pas se venger constitue en soi le pardon. Néanmoins, elle demeure le premier pas important et décisif pour s'engager sur le chemin du pardon.